Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, on est jeudi et jeudi, le paddock RMC passe en mode warm-up avant le Grand Prix du Brésil. C'est la nouvelle Formule 1 qu'on te propose pour cette fin de saison de Formule 1. Il y a tous les débriefs des Grands Prix qui sont encore d'ailleurs en ligne hein, sur notre chaîne podcast Paddock RMC. Tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu veux revenir sur le début de saison incroyable de Red Bull et de Max Verstappen, bah, tu peux te refaire les Paddock RMC. Quand Verstappen roulait sur tout le monde, c'est plus vraiment le cas. Et donc là, on vous propose des petits warm-up pour avoir toutes les infos avant les week-ends de course. Surtout que la Formule 1 termine son triple header, comme on dit. Trois courses en trois semaines. Austin, Mexico et donc Interlagos ce week-end sur l'un des tracés les plus iconiques de la F1. On va parler de ce circuit, on va parler de ce qui attend les pilotes ce week-end, les conditions météo. Bref, vous saurez vraiment tout avant de vous plonger dans les séances d'essai et dans ce week-end de course. On va aussi se focaliser sur ce qu'il se passe du côté de chez Red Bull parce que Sergio Perez là, il a très chaud. Enfin, c'est même plus chaud là. Il est en train de brûler notre ami Sergio. On voit pas comment il peut garder son baquet. Qui pour le remplacer. On va débattre de tout ça et puis les dernières actus de la F1 avec un Fernando Alonso qui a des petits soucis de santé et ça peut être handicapant pour ce week-end. Les ingénieurs du paddock RMC qui sont avec nous pour ce warm-up, c'est l'équipe habituelle du warm-up, hein. Louis Gerbier, Julien Absalon, salut les gars.
Salut tout le monde.
Salut Nico, salut tout le monde.
C'est un peu vous nos statisticiens, là, les mecs qui se projettent, qui donnent des pronos, c'est énorme ce que vous faites. Sachez.
j'ai eu bon hein, sur les pronos ouais. Du Mexique, je tiens à le dire.
Ouais, c'est vrai. Non. Ouais, mais vous êtes pas mal, hein. Même Louis, pour le coup, il s'est pas trompé. Bon, t'avais dit Charles Leclerc. Mais.
Ouais, mais ça, c'était le cœur qui parlait, tu vois.
Ouais. Bien évidemment.
Ça marche quand même.
Non, franchement, vous avez été très bon. Et vous allez être très bon là sur le Brésil, j'en suis sûr. Les gars, c'est parti pour ce warm-up du Grand Prix du Brésil. Bon bah rapidement les gars, on va présenter ce circuit. Premier Grand Prix à Interlagos en 1973, c'est bien évidemment une des dates à ne pas manquer de ce calendrier de F1. Voilà, Interlagos, on sait que c'est un moment qui est coché par tous les pilotes. C'est le retour de la Formule 1 au Brésil avec Ayrton Senna. Bref, c'est un circuit qui est plein de symbolique et où il se passe beaucoup de choses chaque week-end.
Oui, c'est génial. Franchement, ça va vite, c'est dynamique, c'est le tour est relativement court. Effectivement, généralement des dépassements un peu partout. Bien souvent aussi des rebondissements liés à la météo. Peut-être ce week-end, même sans doute hein, d'ailleurs, parce que on est en pleine période où il pleut au Brésil, voilà. Et vraiment. Puis toujours aussi un public formidable, ça joue hein, mine de rien. Aussi en tant que téléspectateur. Donc franchement c'est top. Et surtout là en plus l'enjeu sportif est énorme. Il est encore plus depuis le Grand Prix du Mexique, même si c'est pas non plus y a pas une égalité de points, hein, mais ça s'annonce palpitant. C'est toujours bien le Brésil.
C'est vrai que c'est toujours bien le Brésil. Ouais, je vous rappelle quand même, il y a 47 points de retard pour Norris sur Verstappen. En gros, Norris doit reprendre 12 points par week-end à Verstappen s'il veut être champion du monde. Et au classement des constructeurs, 29 points, c'est ça ?
Ouais.
Ouais, c'est ça. Bon, 29 points. Il y a des conditions aussi météo qui peuvent influer pas mal le sort de ce Grand Prix. Hein. Louis, c'est toujours particulier Interlagos pour ça. Alors déjà, on va dire, Louis, que Verstappen, il est quand même à l'aise sur ce tracé-là. Il a gagné l'année dernière en 2023. Il a déjà gagné en 2019. Les Mercedes aussi, d'ailleurs. Hein, Hamilton, notamment, se comporte bien sur ce tracé-là. Mais c'est vrai que au Brésil, les conditions météo peuvent changer beaucoup de choses. Et là, samedi, on annonce plutôt beau temps pour les qualifs. Par contre, pour la course, il y a de vrais risques de pluie. Hein.
Ouais, ça va être sympa puisque le Brésil, quand ça tombe et on se rappelle de Felipe Massa. Felipe Massa, il doit bien se rappeler de Sao Paulo sous la pluie puisque on rappelle que c'est comme ça qu'il perd le titre face à Hamilton puisqu'il se met à pleuvoir et que selon les différentes stratégies, Hamilton doit terminer cinquième si Massa gagne. Et alors qu'il est sixième, je crois, il passe Timo Glock, qui n'avait pas changé de pneu et qui était donc...
Timo Glock,
Le fameux.
Et oui, bien sûr.
Il y a Schumacher, Senna et Timo Glock dans l'histoire de la F1. Et donc Thibaut Glock qui ne change pas de pneu, donc il est sur des œufs, il avance plus. Et donc on a tous vu ces images du clan Ferrari qui se prend une douche froide quand on leur dit d'arrêter de fêter leur titre, puisque Hamilton est champion du monde et c'est pas Massa. Donc ouais, ça rappelle de très bons souvenirs. Quand on voit la pluie sur l'application météo pour dimanche, on a hâte d'y être. Un circuit assez dynamique. Une espèce de toboggan, de roller coaster, puisque tu as pas mal de dénivelé, tu plonges dans les S de Senna, là, qui sont deux virages bien techniques. Et ensuite, t'enchaînes des grandes courbes, et puis à la fin, tu remontes du coup en haut du toboggan avec cette grande ligne droite et ce gros DRS. Et comme le disait Julien, un tour en quoi, une 9, une 8,
ouais.
Une
10, ouais, c'est ça, ouais. D'à peu près. 10, le record du tour, je crois.
C'est toujours un Grand Prix qui plaît aussi aux pilotes, le circuit plaît aux pilotes, et en plus cette dernière zone DRS te permet quand même des dépassements. Dans les S de Senna, on en voit parfois, on voit des beaux départs dans la courva, dans la première zone de DRS là, juste après les S de Senna aussi, on a vu de belles batailles ces dernières années. Donc, Grand Prix alléchant avec un peu de pluie, il y a moyen qu'on s'amuse. Ouais.
Ouais. Et puis la piste a été resurfacée, comme on dit.
Ça plus l'eau.
Point d'interrogation, point d'interrogation pour Pirelli. Normalement, on est toujours sur une stratégie à deux arrêts, mais à voir comment les voitures vont se comporter. Et en plus, il n'y a qu'une seule séance d'essai, vu qu'il y a,
le sprint.
Ouais. D'ailleurs, il risque de pleuvoir aussi pendant le sprint.
Exactement.
Donc, et en plus, et par rapport à la pluie sans remonter forcément aussi loin pour Massa, Timo Glock, suffit aussi de se rappeler de la qualif avec Magnussen qui fait en 2022.
Oui, bien sûr.
Magnussen qui en qualif, du coup, fait la pole parce qu'il sort en premier, assez vite, et du coup, il enregistre un chrono, et puis la pluie s'est intensifiée et c'était mort, quoi, pour les autres.
Oui, c'est vrai.
Timo
Incroyable.
Glock. Je suis en train de regarder le palmarès en Formule 1 de Timo Glock.
Eh ben, on n'a pas le temps de tout dire. On a 40
Prix,
minutes de podcast.
23 Grand Prix.
On rigole, mais on aimerait bien.
Il a marqué quelques points quand même, Timo.
Non, mais on rigole, mais on aimerait bien sa carrière. Attention.
C'est une carrière honnête. Il n'a pas marqué. Bon, enfin, d'une certaine façon, il a marqué l'histoire. Mais bon, voilà. C'est un peu anecdotique au final.
Autant que Michael Masi, tu vois. C'est des mecs qui ont décidé d'un championnat du monde à un moment, quoi.
Si on commence à voir repartir avec des noms, là, c'est exceptionnel. On va faire ça dans le warm-up à chaque fois.
Les name dropping terrible.
Je vais peut-être vous demander à chaque fois les pilotes les plus lunaires là, dont on peut se souvenir à chaque fois. Vous savez qu'il y a une stat aussi à Interlagos, les gars, c'est que probabilité qu'il y ait la voiture de sécurité, la safety car qui sorte, 86% quand même. Alors c'est basé sur des chiffres qui analysent les 7 dernières courses, mais c'est en général ça tombe quoi là-bas. Hein.
Ouais, parce qu'il y a toujours la piste est étroite, donc déjà sur les dépassements il y a de grosses probabilités qu'il y ait un accrochage. Par exemple Hamilton Albon il y a quoi 4 ans un truc comme ça. Et puis tout simplement, par exemple même le dernier secteur. Il suffit que la voiture perde de l'équilibre et hop, ça tape le mur. Ça peut être très dangereux d'ailleurs. Encore une fois, la météo, ça peut créer. Si vraiment il y a un déluge, on pourrait très bien avoir, par exemple, un départ sous safety car. Je sais que maintenant ils évitent, ils repoussent l'extinction des feux, mais voilà, on ne sait jamais.
Les 5 derniers vainqueurs à Sao Paulo, Max Verstappen, on le disait l'année dernière, George Russell en 2022, Lewis Hamilton en 2021, Verstappen en 2019 et une nouvelle fois Lewis Hamilton en 2018. Donc sur les 5 derniers Grands Prix du Brésil, 2 victoires de Red Bull avec Verstappen et 3 victoires Mercedes, dont une de George Russell. Voilà un petit peu pour la présentation de ce circuit avec cette nouvelle surface, resurface là dont il va falloir se méfier, surtout avec une seule séance d'essai, tu le disais Jus. Les gars, on va aussi surtout s'attarder sur ce qui se passe du côté de chez Red Bull et l'avenir de Sergio Pérez. Bon, alors après son avenir, je sais même pas encore s'il y a un débat, Louis, parce que Christian Horner là est encore sorti après le Grand Prix de Mexico en disant que là ça commençait à être difficile de le défendre. Il a employé les termes week-end horrible encore une fois pour Sergio. tu sens que là, oui, c'est la goutte un peu qui fait déborder le vase. Juste, je vous donne quelques stats. Hein. Dernier podium de Pérez, Grand Prix de Chine, c'était il y a 6 mois. Sinon, à Miami, le week-end suivant, il avait fait une 4e place. Et depuis, c'est seulement une 6e position à Zandvoort, aux Pays-Bas. Il a surtout été en qualif, hors de la, enfin éliminé en Q1 5 fois. Cette stat, je l'ai trouvé assez incroyable. Donc on peut dire que pour Sergio, c'est mort là, Louis, non?
Ouais, comme je pense que maintenant c'est une histoire de temps. Tu vois, il y a un minuteur maintenant. La question, c'est de savoir quand, parce que je pense que la décision, il y a Marco et Horner, quand ils sortent du bois comme ça, j'en connais pas un qui se soit relevé de.
Généralement, il y a que Marco là maintenant.
Ouais,
Horner.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il a toujours défendu Horner depuis le début de saison. Ouais. On est plutôt d'accord. En tout cas, il l'a généralement défendu. Il a toujours dit non, mais il va se ressaisir, ça va le faire. Puis ce fameux petit tournant là, il est jamais arrivé.
Non, jamais. Puis c'est de pire en pire. Tu dis, enfin, il est quand même dans la meilleure voiture des 2-3 dernières années, qui est aujourd'hui la 2-3, mais elle est quand même encore dans le coup, plus que dans le coup. Il se fait sortir en Q1 de manière presque régulière, c'est pas normal. Et c'est même pas de son niveau d'ailleurs, ce qu'on disait. Hein. C'est que pour moi, il a lâché, et voilà. Faut finir la saison peut-être, il reste quoi, 5 Grands Prix?
Non, là, il y a...
Finir la saison ou pas? Parce que là, tu
4,
sens quand
même... Il y a 4, enfin, en comptant le Brésil, ouais.
Ouais, non, bah...
Mais à un moment, on a cru qu'il allait se remettre dedans avec Bakou, ouais. Azerbaïdjan, ou mine de rien. Bon, le truc, c'est qu'après, il y a l'accrochage en toute fin de course. Mais pour le coup, il a le rythme, il est intéressant en piste. Mais en fait, il a gagné un sursis à un moment donné chez Red Bull parce qu'il disait qu'il y avait des problèmes sur la voiture. Et bon, le truc, c'est qu'en début de saison... Verstappen gagne. Donc en fait, chez Red Bull, on ne comprend pas. Mais Horner l'avait admis. Finalement, ils ont effectivement constaté qu'il y avait un problème sur la monoplace, sur les améliorations. Et ils ont finalement remercié Pérez d'avoir tiré le signal d'alarme pour effectivement enquêter. Et du coup, ils avaient dit bon, bah effectivement, c'est juste que lui, il est plus sensible à ces problèmes. Donc voilà pourquoi ça ne marchait pas. Sauf que maintenant que ces problèmes ont été trouvés, alors ils n'ont pas forcément été réglés, hein, parce que le rythme de course n'est pas bon. Mais en attendant, Verstappen, il fait des résultats honnêtes, même bons. Pendant que, c'est ce qu'on dit, Pérez, il est incapable de sortir d'une Q1, ça commence à devenir gênant, même au-delà même du côté sportif, en termes d'image. En termes d'image, c'est catastrophique.
Mais moi, j'ai une idée, du coup, par rapport à ce que dit Julien pour Pérez, du coup, par rapport à ce que tu décris comme profil. Pilote de réserve Red Bull, comme ça tu trouves les problèmes dans le simulateur et puis tu laisses un pilote rapide dans la voiture. Voilà. Je vous le refais l'organigramme de Red Bull, il n'y a pas de souci. Ah, c'est qu'on en arrive là, il ne sert plus à rien aujourd'hui, hein, le pauvre. Hein. Donc maintenant, tu veux Liam Lawson, Tsunoda, ça a l'air d'être qu'entre deux. Hein.
En fait, évidemment, en plus, jusqu'à présent, il a aussi bénéficié de... Effectivement, il a son statut, mais c'est lié au sponsor qui l'amène. Mais là, c'est vrai qu'on s'est à se demander s'il va y avoir une pause de 2 semaines. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un remplacement de dernière minute? Après tout, la justification chez RB, c'était de dire Ricardo, en fait, en gros, il ne nous sert plus à rien pour la fin de saison, on prépare la suite. Donc on met Lawson dès maintenant aussi parce qu'ils veulent faire des essais, tester les pilotes en conditions réelles pour justement ce fameux baquet numéro 2 chez Red Bull. C'est à se demander si, Verstappen, s'il a besoin d'aide pour sauver le titre champion du monde et surtout aussi pour l'écurie Red Bull au classement constructeur. Est-ce qu'il ne faut pas faire monter Tsunoda ou même directement Lawson?
La question va
se poser si ce week-end, c'est catastrophique encore pour le Mexicain.
Alors, je vous donne les propos de Christian Horner hein, quand on lui pose la question sur l'avenir de Pérez. Est-ce que le changement pourrait s'effectuer pour 2025 ou est-ce que là, après le Brésil, déjà la question se pose? Il dit « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour soutenir Checo. Nous continuerons à le faire au Brésil le week-end prochain. Mais il arrive un moment où on ne peut pas tout faire. Il arrive un moment où des décisions difficiles doivent être prises. » Donc, tu vois, ça veut dire que le gars, pour la première fois, quand même, quand tu lui poses la question en mode ton pilote, est-ce qu'il va terminer la saison? Bon, il dit on doit prendre des décisions difficiles. Donc, tu sens quand même que là, sa tête, elle est plus que que sur le bio.
La seule chose favorable, à mon sens, pour Sergio Pérez, c'est déjà qu'il y a quand même un week-end à faire. au Brésil, mais avant les trois derniers Grands Prix de la saison. Mais c'est aussi que quand il y a des rumeurs de remplacement imminent, normalement, justement, on entend des bruits, on entend ah tiens, en fait, Lawson, ça y est, c'est fait, c'est ce qui s'était passé pour Ricardo. Et là, ok, on a une déclaration, mais au final, je trouve, pour l'instant, ça se trouve, en fait, en 24 heures, ça a changé, que ça ne bruise pas assez, que là, il n'y a pas de nom qui émerge pour dire, ok, là, c'est sûr, Pérez, c'est son, ouais, dernier, c'est son dernier Grand Prix. Donc, bon, mais après, chez Red Bull, vraiment, tout peut aller vraiment très vite, surtout si bah, maintenant, Horner, voilà, et puis. Et à de telles déclarations publiques.
Et là, il est arrivé
bon,
au
alors,
point.
Les gars,
excuse-moi, il est juste arrivé
vas-y.
Au point en fait où maintenant même une sortie de piste en essai, ça peut être la fin. Tu vois, genre, c'est-à-dire que ça va être la goutte d'eau, quoi. Là, c'est là, le prochain truc qui se passe pas dans le bon sens pour Pérez, ça lui coûtera sa place.
Et puis quand tu vois la forme des Red Bull là et le rythme affiché depuis deux courses, tu te dis que ça va pas forcément aller en s'améliorant pour lui. Bon, tu le disais, Louis, Lawson, Tsunoda, il y a Christian Horner aussi qui a parlé de Colapinto, Pinto, qui a dit je serais un bon team principal si je m'intéressais pas à Colapinto Pinto et si j'essayais pas de discuter avec lui. On parle beaucoup et on en a parlé dans le précédent warm-up là avant le Mexique, mais Piastri aurait été sondé. Alors toi, Jules, tu nous disais j'y crois pas, c'est pour mettre la pression.
Oui.
Et d'ailleurs, Colapinto et Piastri ont démenti les rumeurs Red Bull. Mais bon, je sais pas. Moi, pour Colapinto, je me dis que c'est une opportunité en or. Qui vous voyez, vous, si vous avez un nom à donner, peut-être ce qui serait le plus probable au niveau sportif. Est-ce que vous vous aimeriez comme coéquipier de Verstappen?
Écoute,
vas-y.
Je venais de lui donner la parole, c'est pour ça. en studio, je lui ai fait un signe, c'est pour ça. On s'est...
Très bien.
Contre-pied, vas-y, Jules.
Non, bah, moi plutôt Lawson, même si ça peut paraître un peu précipité, mais c'est celui qui me donne le plus satisfaction dernièrement hors Verstappen, dans l'environnement Red Bull. En fait, c'est un peu par élimination aussi, parce que bon, bah du coup, Pérez non, Tsunoda, bah. Tsunoda, moi je me disais justement en début de saison, ok, c'est peut-être l'année où il va vraiment se montrer, il va montrer, comment dire, qu'il évolue, qu'il prend du galon, quoi. Et en fait, non, finalement, il a même parfois été dominé par Ricardo. Je suis pas du tout convaincu. Et évidemment, bah en fait, Colapinto, on pourrait pas imaginer. Par contre, on pourrait imaginer un jeu de chaise musicale où Colapinto se retrouverait, voilà, chez RB. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi je vois bien Lawson, enfin en tout cas j'aimerais bien que Lawson ait une promotion et que du coup ça fasse un effet domino, quoi.
Ouais, Colapinto, oui. Colapinto, ça va. C'est pas Noël non plus, mec. le gars,
après,
il est arrivé en F1 par la fenêtre et hop, et là maintenant.
Non, mais il arrive avec 10 millions aussi dans les pockets.
D'accord.
Ouais, mais après, ils ont quand même des données sur ce que les mecs font au simulateur ou.
Oui.
Voilà.
Non, mais de toute façon, s'il finit dans ce baquet, c'est qu'il l'aura mérité. Hein. C'était. Mais du coup, ça serait une ascension de carrière, mais incroyable. Attention aussi quand on monte trop vite. Un jeune au contre-coup pour nos amis footballeurs, je pense à Warren Zaïre-Emery par exemple, tu vois, il ne faut pas faire une pareil avec Colapinto.
Ouais, est-ce qu'il y a vraiment parce que
quand tu portes trop au nuque un jeune parfois, non mais parfois ça se passe très bien, hein, parfois
ouais,
voilà. Après moi, pour revenir à la question initiale, si j'étais RH d'une entreprise lambda, ça serait un peu Tsunoda parce que ancienneté,
oui,
il est quand même dans le giron depuis plus longtemps, il a plusieurs saisons accomplies, même si elles ne sont pas fabuleuses, elles sont accomplies en Formule 1. Après, je rejoins Julien sur quand il a fallu un peu prouver qu'il avait passé un cap ou deux, il a eu du mal à le prouver, et très récemment encore, puisque depuis qu'on sait qu'il sera dans la voiture à Abu Dhabi, le week-end dernier, c'était un enfer pour lui. Il a enchaîné la malchance et les boulets.
Ouais, Mexico, c'était pas bon du tout.
Ouais. Donc, du coup, il recule sur la liste. Lawson, il est assez solide sur ce qu'il montre. Pourquoi pas. Il fait des doigts d'honneur à Red Bull, ça plaît, ça, je pense, à la fin, même s'il a dû se faire taper sur les doigts.
Ouais. Alors pour le coup, il s'est fait taper sur les doigts. Moi aussi, je partais du principe que voilà, ça plaît, même le fait de se bagarrer sur la piste. Après tout, Verstappen fait exactement pareil. Bon, parfois il a touché, il a tapé et tout, mais les déclarations, c'était pas trop ça. Bon, après, Horner aussi, il y avait le langage corporel. À un moment, on le voit, on voit
Ouais.
Lawson dans le bureau et tout. Moi, ouais, je sais pas s'ils ont apprécié. Je pense que là, ils pensent beaucoup au championnat constructeur.
Ouais, non, mais...
Apparemment, il s'est excusé.
Oui,
Apparemment, Lawson s'est
il s'est
excusé.
excusé,
Enfin, voilà.
effectivement.
Mais tu sens qu'en effet, ils ont mis énormément de rondeur autour de ce fait de course
Alors,
entre Perez et
que
Lawson.
Horner, que l'équipe Red Bull l'ait fait ou quoi, je suis complètement d'accord. Après, je pense que quand Helmut il rentre dans sa chambre d'hôtel, il se dit, ah ouais, il en a lui au moins, tu vois.
Oui.
Je
Ouais,
le vois
c'est clair.
bien. Donc voilà. Et derrière, bah de toute façon, c'est un peu les deux. Colapinto, ça serait un long shot quand même. Moi, j'y crois pas trop. Je le vois plus s'il doit récupérer. S'il arrive dans le giron Red Bull, je vois plus la théorie de Julien d'arriver chez RB. Puisqu'une place se sera libérée. Mais
Ouais.
moi, je veux pas ça, puisque moi, je veux qu'une place se libère pour que Hadjar soit
Oui, Hadjar,
dans la
évidemment.
RB.
Eh oui,
C'est
Isaac
ça
Hadjar,
que je veux, moi. Je
notre
veux
Français
voir.
qui est en
Je...
F2
Ouais,
et qui est
et
pilote.
puis lui, je pense vraiment qu'il fait partie dans sa génération de ceux à qui tu donnes un volant, il montrera qu'il sait bien piloter, quoi. Il sera solide rapidement, je pense.
Les gars, bah tiens, on reste sur Red Bull quand même parce qu'il y a des chiffres qui sont inquiétants pour eux, c'est le rythme en course. Dans ce qui est, dans ce qu'on peut récolter comme stats depuis le début de saison, il a été prouvé que le Grand Prix du Mexique a été un des pires week-ends pour Red Bull au niveau du rythme en course, avec notamment Monza. Mais ça a été une des pires perfs pour Verstappen et pour les Red Bull. C'est quand même très inquiétant. Il y a les déclats de Horner et d'Helmut Marko qui disent on peut plus faire un week-end catastrophique comme celui-là. C'est impossible si on veut prétendre à quelque chose et encore se battre pour le titre des constructeurs ou le titre pilote, conserver ça. Ils ont perdu énormément de vitesse et ça commence à se traduire vraiment au niveau des chiffres là, Jules.
Ouais, non, mais le Mexique ne correspondait pas à la monoplace Red Bull. Donc c'est peut-être ça finalement qui permet de un peu relativiser justement ces chiffres qui sont vraiment pas bons au niveau de la télémétrie et la comparaison avec les autres équipes. Mais c'est vrai que c'est à se demander si est-ce que ça risque pas enfin, comment dire? En fait, ça veut dire qu'ils ne trouvent pas de solution. Et dans ce cas, peut-être que au Brésil, ce sera toujours la même histoire, encore un déficit énorme. Alors que dans le même temps, on a bah, McLaren qui est toujours bien, mais surtout, en fait, on a Ferrari là qui, ça y est, ça fait plusieurs semaines. Ok, ils ont trouvé un truc, notamment, c'est ça que j'avais lu, c'est l'aileron avant.
Ouais.
Ils ont redessiné l'aéro. Et voilà, on voit que la voiture est très performante. Donc non, ça c'est. C'est inquiétant pour Red Bull, mais bon, je me dis aussi, là, c'est pas encore. Enfin, Red Bull a annoncé qu'il y aura un changement moteur pour Verstappen et que ça.
Pénalisé, on sait pas combien de places, mais
Ouais, j'ai lu 5 ou 10 places. Mais
ouais.
le truc, c'est qu'il pourrait aussi changer d'autres éléments sur la monoplace. Dans ce cas, ça ferait départ en fond de grille. Mais. Donc tout le monde se dit, ah ouais, ça va vraiment être compliqué, et dans ce cas, Norris peut vraiment faire un énorme coup au niveau du classement. Effectivement, mais par contre, peut-être que Red Bull est suffisamment confiant dans sa configuration pour le Brésil, et se dit, bon bah là on change le moteur, comme ça en fait, Verstappen fera 12, 13, ou peut-être même 11 en qualif, et il sera suffisamment rapide sur la piste, avec en plus boosté par ce moteur à pleine puissance, pour finalement remonter rapidement quelques places et sans forcément envisager la première place, la deuxième ou même tu vois juste le podium. En tout cas, faire 4-5 et 4-5 c'est largement suffisant pour comment dire déplaire à Norris.
Ouais, c'est ça. Pour en tout cas garder des points précieux d'avance au championnat. Helmut Marko qui dit que bah, il galère notamment dans les virages lents par rapport à Ferrari et McLaren, qu'ils ont un vrai déficit par rapport à leurs deux concurrents dans ces secteurs-là. Et lui, il dit, enfin, bah, c'est bizarre. Alors, c'est peut-être très probablement de la com, mais Helmut Marko. Il dit, bon, le Brésil, ça va être compliqué pour nous, on le sait, parce que McLaren va très vite, ils sont très forts, notamment à la fin des relais. Mais on a quand même le Qatar et Las Vegas où les choses devraient s'améliorer à nouveau. Donc, tu as raison, Jules, ils affichent quand même de la confiance dans pas mal de secteurs.
Après, tu vois, même
Louis,
Las
moi, j'ai
Vegas,
une
ça paraît
question.
un peu. C'est étonnant qu'ils disent ça parce que bon, c'est un circuit urbain, alors c'est pas non plus Monaco, mais
Ouais.
bon, moi justement, je suis un peu étonné par ces déclarations. Il y a peut-être aussi une part d'intox. Hein. Faut pas oublier que là, justement, on rentre dans le money time, même si ce n'est pas les trois derniers Grands Prix. Voilà, il faut prendre certaines déclarations aussi avec des pincettes.
Ouais, bien sûr, c'est clair. Louis, moi, j'ai une question par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier. Est-ce que les 20 secondes de pénalité de Verstappen, ça peut changer un petit peu, modifier un peu sa façon de conduire là pour ce Grand Prix du Brésil, surtout bah que tu vas avoir des places de pénalité sur la grille. Je vais pas dire qu'il est totalement sous pression Verstappen parce qu'il sait gérer ça mieux que personne, mais est-ce que tu penses que ça peut avoir une influence sur son agressivité en piste, son comportement par rapport aux autres pilotes, si on se retrouve dans des situations comme celle de la semaine dernière ou comme celle d'Austin, est-ce qu'il va changer des choses?
Lui, je pense pas, non. Lui, il l'a dit, et j'ai tendance à le croire, que ça n'aurait pas d'influence sur sa conduite. En revanche, là où peut y avoir un changement, c'est peut-être sur les autres quand ils vont être autour de lui. Tu vois? C'est-à-dire, il est dans une situation, il peut pas se permettre de jouer à celui qui est le plus bête. Donc moi,
le pousser un peu plus à la faute,
tu
penses?
Ouais, voilà, tu vois, genre lui laisser le minimum de place ou tenter un truc qu'il n'aurait peut-être pas tenté en début de saison. Parce que justement, ils se disent là, de toute façon, lui, il va pas pouvoir non plus risquer tout, quoi. Mais est-ce que lui changera? Je pense que le connaissant, non, je le connais pas, mais je veux dire, ce qu'on voit de lui au quotidien et tout, pour moi, il va pas changer d'un iota, quoi.
Franchement, ça a toujours été son style de pilotage, ouais, hein, très exactement. Agressif, toujours à la limite. Bon, avec Hamilton, c'était pareil, même depuis ses tout débuts. Hein, on se rappelle quand, je pense notamment à Jacques Villeneuve qui arrêtait pas de dire, mais la FIA ne sanctionne jamais Verstappen. Et ça, c'était quand il venait d'arriver chez Red Bull, donc. Moi non plus, j'y crois pas à un changement de pilotage de sa part.
Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre aussi par rapport à Verstappen? Non, mais voilà, on a fait le tour. Autre info, les gars, Fernando Alonso qui était malade, on l'avait dit la semaine dernière aussi, qui était revenu dans la voiture pour le Grand Prix du Mexique. Là, il a dû faire un petit aller-retour en Europe, Fernando, parce qu'il a des problèmes intestinaux. Il a notamment manqué le Media Day. Alors, du côté de chez Aston Martin, on dit qu'il sera là pour le Grand Prix du Brésil et que ça devrait le faire. Mais compliqué là pour Fernando de jongler, de digérer. Jus, on en parlait tout à l'heure, deux déplacements, un retour en Europe, un aller-retour comme ouais, ça avant un week-end, et t'enchaînes une troisième course en trois semaines.
Des courses éprouvantes en plus. Hein, c'est
à son âge, mine de rien. Enfin, à son âge, voilà. Mais bon, à 40 ans.
Ah, mais ouais.
C'est plus difficile de digérer ça qu'un gamin de 20 ou 21 ans. Donc ouais, compliqué. Hein.
Ouais, non, mais c'est le problème, c'est ouais, c'est ça, c'est un corps d'athlète, mais un corps d'athlète qui a maintenant 40 ans, et là en plus vraiment c'est pas comme si ça arrivait au milieu de, je sais pas, Silverstone, Barcelone, non, en plus c'est Mexico où voilà, c'est en altitude. Il y avait avant ça les États-Unis, donc il y a eu un long déplacement. Là maintenant c'est au Brésil, où ouais, c'est compliqué, Et en plus, là, pour le coup, ça montre que c'est quand même une saison à oublier pour Alonso, et même globalement, de toute façon, pour toi, Aston Martin.
Écurie, là,
hein,
ouais.
C'est vrai. À part l'arrivée d'Adrian Newey, il n'y a vraiment rien à dire sur leur saison. Quoi. Genre, c'est l'anonymat le plus total. Quoi.
C'est terrible parce qu'ils avaient bien démarré. Comme la saison dernière, tu as une petite hype à chaque fois sur eux en début de saison. Tu dis, ouais, ça va le faire. Et au final, là, au classement des constructeurs, ils ont 86 points seulement. Ils sont très, ah,
franchement,
très loin.
As partait un peu plus tôt dans leur remontée, ils pouvaient les concurrencer.
Ah bah ouais.
Hein. Là,
je crois que
un peu tard là.
As a marqué des points quand même sur les 7 derniers Grands Prix, je crois.
Ouais,
à chaque
ouais.
fois, ils ont réussi à placer une petite voiture dans les points. Aston, c'est dramatique. Hein.
Ouais, non, c'est dramatique. Mais en revanche, je veux dire, Alonso, il est un peu fragile parce que je veux dire, c'est le cas de tout le monde d'avoir des problèmes intestinaux quand tu reviens du Mexique.
Moi ça va, je te l'air très bien.
Il n'a pas besoin de retourner en Europe là, c'est franchement.
Il a une infection intestinale.
après mine de rien, pour que du coup il fasse l'aller-retour en Europe. Non, mais en vrai, c'est que ça doit être quand même un.
Ça doit être important
quand même. Costaud
des hôpitaux, il y en a partout. Hein.
Oui, voilà.
Ouais. Petite stat que je peux vous donner aussi, les gars. Oscar Piastri a marqué des points sur ses 22 dernières courses disputées. C'est tout simplement une première pour un pilote McLaren dans l'histoire. Voilà, jamais un pilote McLaren apparemment a marqué des points sur 22 courses consécutives. Voilà.
Et en même temps, et la stat tombe au moment où on le trouve. Enfin, je le trouve. Enfin, c'est pas du tout fringant. Pas dans. Il a perdu un truc, il a perdu la vitesse, même la course, il n'arrive pas à dépasser. Il y a un truc qui. Il n'y a rien de grave encore, même si. Parce qu'en fait, il n'y a rien de grave, pourquoi aussi? Parce qu'il n'y a pas Sergio Pérez qui fait le taf de l'autre côté, quoi. Mais ouais, là, je sais pas, il est plus dedans. Bon.
Non, ouais, il a perdu de sa superbe le fameux dépassement dingo qu'il fait sur Charles à Bakou, c'est ça, hein?
Ah
On, je verrais pas du tout le faire en ce moment, tu vois. C'est des
ouais.
trucs qui se passent, je pense, hors du talent de pilote, mais plus dans la tête, je pense.
Ouais, peut-être le moment où justement des gens étaient en train de lui dire ouais, il faudrait que tu sois, que tu t'imposes comme numéro
Numéro
1 ou au
1.
moins co-numéro 1. Et du coup, bah, c'est pile à ce moment-là où bah, voilà, il est un peu en retrait. Bon, peut-être qu'il va se remettre là. Hein.
Plus longue série de l'histoire de la F1
Mais
pour un pilote McLaren, hein, je précise.
par contre, voilà, après, ça, par contre, la stat montre effectivement qu'on est sur un très bon pilote, le très bon pilote annoncé. Hein, et que, bon, bah, encore une fois, c'est de dire que bah, Alpine a clairement mal géré cette histoire. Hein, mais ça, on ne cessera
Oui,
de le
bon,
répéter.
ça.
Hein. Bon, à force,
Ça.
ce sera vraiment du passé, mais quand même.
T'arrives à nous recaler Alpine à chaque podcast. Ça, c'est très fort quand même. Ça, c'est magique.
Le problème, c'est qu'on va essayer, comme ils sont plus jamais au conducteur parce qu'il se passe rien, on est obligé d'en reparler un peu comme ça par
Ouais, c'est terrible.
parce que enfin, c'est terrible. Mais enfin, bref.
Tiens, je voulais vous faire réagir sur la petite déclat de Fred Vasseur quand même, après le Mexique, qui dit que. Qui reconnaît, bon, et qui dit un peu ce qu'on pense tous depuis quelques semaines, mais il dit que le duel quand même entre Verstappen et Norris, franchement, c'est tout bénef pour la Scuderia et que bah c'est une situation parfaite pour Ferrari qui se nourrissent de ça et que ça leur permet d'engranger de gros points. Ça risque d'être encore le cas ce week-end, même si Verstappen va être pénalisé, on le dit, il y aura peut-être moins de combats directs sur la piste, mais voilà, on sent que bah, Vasseur il compte bien utiliser cet affrontement pour maximiser le moindre petit point pris sur la piste, hein, Louis.
Bah, c'est ça qu'il faut toujours, le maximiser, maximiser et attendre la fin de saison. Comme un épicier, si t'écoutais l'after. C'est une expression qui revenait souvent à l'époque, c'est ça. Il faut faire l'épicier, il faut pas chercher midi à 14h, faut pas chercher la grande victoire. C'est ce que doit faire Roré Martin en moto aussi. Voilà, ne surtout pas faire le fou. Et.
Non mais ils sont, tu vois, ils sont en mode chasseur là, Ferrari, et t'as la sensation vraiment que ça leur correspond bien. Enfin, Vasseur déjà, ce rôle-là, ça lui plaît. Il dit, moi, on parle de nous. Plus vous parlez de Max, Lando, de la lutte entre Christian Horner, Toto Wolff, qui se mettent des tirs par presse interposée, c'est parfait. Nous, on est sous les radars, tranquillou, et on fait notre truc, et ça nous va bien, quoi. Et ça nous va bien.
Bah ouais, ça leur va très très bien. Moi, ça me va très bien aussi. Surtout ce que je disais un peu déjà la semaine dernière, cette voiture qui a l'air solide partout. C'est presque la première fois sur cette réglementation qu'on voit une voiture qui passe chaque circuit vraiment de bonne manière, qui souffre rarement sur les dernières pistes. Et deux pilotes qui sont là, un qui veut finir en beauté avant de partir et sûrement. Parce que lui, dans quatre courses, les podiums, les victoires, il peut
Oula.
oublier,
Ah oui, ça
peut-être,
c'est
sûrement à jamais.
c'est
Donc,
clair.
lui, je pense qu'il a l'écrou. Charles a l'écrou parce que bah, il y a un titre constructeur potentiel pour l'écurie parce que il est dans la course pour des podiums, des victoires. Donc non, il y a une belle énergie.
Bon, en plus, c'est que là, ils se disent, bah, c'est de bon augure pour l'année suivante. Hein. On est encore sur la même réglementation, toujours des modifications par-ci par-là, mais. C'est de bon augure, il va y avoir Lewis Hamilton. Donc là, ils peuvent travailler tranquillement. Ils ont juste à se concentrer sur faire de bonnes courses et en fait, capitaliser sur. Enfin, profiter du fait que Norris et Verstappen perdent du temps dans des batailles et peut-être même leur voiture tout court hein, s'ils se mettent dehors en cas d'accrochage. Donc, ouais, c'est normal que là, que Ferrari soit aux anges. Hein. Parce que
C'est
là, ils ont
clair.
réussi à faire des progrès.
Ouais. Bon, c'est le moment tout attendu, les gars. C'est le moment des pronos
Aïe,
avant ce Grand
aïe,
Prix du Brésil. Je vais commencer du coup par Julien, le temps que tu,
aïe.
Louis, tu, voilà, tu pèses tes mots.
Ouais, chaque
Pour moi,
fois.
ce sera Norris. McLaren sera bien. Je pense aussi que Piastri va se remettre dans le truc. Norris, et puis avec Ferrari qui, quand même, sera très bien placé pour confirmer, même si c'est pas exactement le même type de circuit. Et malgré la pénalité, Verstappen réussira à faire genre cinquième et du coup à limiter la casse. Pareil pour le sprint, hein, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier.
Oui.
Mais sachant qu'il faut avoir en tête que bon, c'est une moyenne, parce qu'en fait, il y a 47 points d'écart. Donc, dans l'idée, à chaque week-end, il faut que Norris reprenne strictement plus de 11 points par week-end. Mais bon, forcément, en fait, ça évolue si, admettons, il y a un abandon ou autre. Mais je pense que voilà, Verstappen va tout faire et Red Bull va tout faire pour se mettre au moins cinquième. Cinquième, ça limite la casse et bon, pour moi c'est ça. Mais sinon, Norris quand même va dominer. Ouais,
ouais. Louis,
Leclerc.
Ah, c'est le meilleur moyen pour les.
Ouais, toujours le ça, même. Je vais le dire 24 fois voilà. Par an l'année prochaine, puis ça tombera 3-4 fois.
Non, mais. Par se l'envoyer ce petit polo dédicacé. Arrête là, ça commence à se voir.
Ouais, j'ai déjà la casquette, t'inquiète. Mais pourquoi ? Parce que pour moi, je pense vraiment qu'en ce moment, la Ferrari, quand même, comme je viens de le dire, elle est bien, elle est là, les gars sont là, tout le monde est là. Et que lui, là. Je pense qu'il a la petite amertume au fond de la bouche quand même, parce qu'il s'est fait doser par Carlos le week-end dernier.
Ah oui,
clairement,
oui.
Tout le week-end. Et ça, quand Charles il a eu un temps de retard comme ça, souvent il est revanchard, hein, c'est un champion. Donc je le vois bien. Et sinon, en surprise, je verrais bien les Mercedes un peu mieux que ces derniers temps.
Oui,
tu vois
ouais,
je les attends, moi, les Mercos.
D'accord.
Le truc, c'est qu'en vrai, elles sont bien, hein, mais c'est juste qu'il lui manque le petit plus pour.
Ouais. Pourquoi pas à Interlagos et le dernier petit chocolat, si Pierrot pouvait reprendre un point.
Un petit punto par-ci par-là.
Ouais, je repense au circuit vite fait et tout. Ouais, c'est un
ça
circuit. De toute façon, si t'es plus rapide, tu passes dans la ligne droite de fin. Donc, tu vas finir derrière les As. Donc, si Perez et Piastri se plantent pas, t'es déjà 12, quoi. Donc. C'est foutu.
Ouais,
voilà. Je retire le dernier chocolat.
c'est vraiment dur.
Bon les gars, merci beaucoup. Je vous rappelle le programme de ce Grand Prix du Brésil à suivre sur AMC bien évidemment avec l'ami Jean-Luc. Hein. Jean-Luc Roy qu'on retrouvera lundi pour débriefer. Ça commence demain avec une séance d'essai. Hein, puis la qualif pour le sprint. Et puis samedi, sprint plus qualif avant la course de dimanche. Nous on se retrouve lundi pour voir si vous avez été excellent au prono. Pour l'instant franchement vous êtes bien.
Ouais.
Et je vais peut-être tenir les comptes.
Je suis moins confiant quand même là.
Ah ouais, tiens les comptes, ouais.
Je vais peut-être tenir les comptes. Ouais. Après, voilà, celui qui gagne à la fin de la saison, il aura un petit cadeau offert par Jean-Luc parce que j'ai pas les moyens. Donc c'est Jean-Luc qui va financer. Mais on va peut-être se faire un petit truc comme ça. Pourquoi pas. Merci beaucoup les gars. Et on se dit à lundi. Vous continuez à nous écouter. C'est cool. À nous mettre des notes. Surtout, c'est super important. Je le répète à chaque fois. Vous allez me dire, lui, à chaque fois, il nous gave avec son référencement de podcast. Mais c'est vraiment super important pour qu'on puisse continuer à vous proposer des émissions avec des consultants comme Louis et Julien qui sont payés très cher.
Ouais,
je vous l'assure. Une fortune. Voilà, l'image du monde de la F1. Donc non, mais une petite note, des petits commentaires. Et puis on se retrouve lundi pour débriefer ce Grand Prix du Brésil. Bye bye.
Allez, ciao.
Le paddock RMC.